La synodalité, un appel du Seigneur pour notre temps, par l'abbé Denis Cazot, numéro 494 de Église dans les Landes. Un peu d'histoire. Le premier millénaire. Le mot synode est l'association de deux mots grecs, odos, qui signifie chemin, et syn, qui signifie ensemble. S'engager dans une démarche synodale, c'est donc faire route ensemble. On peut dire que dès l'ascension du Christ, l'Église a appris à synoder. Citons comme exemple l'Assemblée de Jérusalem dans les Actes chapitre 15, au cours de laquelle les apôtres ont débattu d'une question nouvelle, l'accueil des convertis issus du paganisme. On peut dire que la gouvernance de l'Église a été largement synodale durant tout le premier millénaire. De nombreux conciles locaux ont en effet été convoqués pour permettre aux évêques de baliser la route lorsque controverses et hérésies risquaient de la conduire vers des impasses. Mais contrairement à nos frères orthodoxes, les catholiques, au cours du deuxième millénaire, ont largement oublié cette pratique ecclésiale. Le Concile Vatican I, en 1870, par exemple, en définissant le dogme de l'infaillibilité pontificale, a plutôt insisté sur la primauté pétrinienne. Le tournant du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, de 1962 à 1965, a rappelé l'importance de la collégialité épiscopale, mais aussi, dans le document majeur Lumen Gentium, a développé la théologie du peuple de Dieu. Il a également mis en lumière l'éminente dignité et la responsabilité de tous les baptisés. Le pape François va jusqu'à affirmer que le synode est l'un des héritages les plus précieux de la dernière assise conciliaire, lettre du 1er avril 2014 au secrétaire général du synode des évêques. À l'issue du concile, le pape Paul VI, par le motu proprio Apostolia Solicitudo, du 15 septembre 1965, institue le synode des évêques, dont l'un des buts est de « favoriser une union et une collaboration étroite entre le souverain pontife et les évêques du monde entier pour la conduite de l'Église au fil de l'histoire ». Au niveau de l'Église universelle, il existe désormais trois types d'assemblées synodales. 1. Les assemblées générales ordinaires. Ce sont les plus connus. Depuis la fin du Concile Vatican II, il y en a eu 15 sur des sujets très divers, depuis l'évangélisation dans le monde moderne, 1967, à la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel, 2018, en passant par la catéchèse en notre temps, la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église, etc. 2. Les assemblées générales extraordinaires. Elles réunissent une délégation plus réduite, des présidents de conférences épiscopales ou des archevêques majeurs, à l'occasion d'événements ou sur des sujets bien spécifiques. Il y en a eu 3 depuis la fin du Concile Vatican II. 3. Les assemblées spéciales. Contrairement aux assemblées générales, les assemblées spéciales se penchent sur des questions concernant spécifiquement certaines régions du monde. La dernière, en 2019, a porté sur l'Amazonie. Qu'elles soient ordinaires, extraordinaires ou spéciales, à la fin de leurs travaux, les assemblées remettent leurs conclusions au pape qui rédige ensuite une exhortation apostolique, partageant ainsi au peuple de Dieu les fruits de la réflexion commune. En marge de ces synodes de l'Église universelle, il existe aussi des synodes diocésains qui se sont multipliés dans l'Église de France depuis 30 ans. Il s'agit d'assemblées de prêtres et de laïcs délégués réunis à l'appel de leur évêque. Après consultation sur le thème proposé, l'assemblée synodale vote des propositions qui sont promulguées par l'évêque et qui ensuite engagent l'église locale. Même si ce dossier n'aborde pas de front la question des synodes diocésains, les repères théologiques et spirituels qu'il contient peuvent toutefois nourrir la démarche qui est en cours dans notre diocèse en particulier. Ce tournant poursuivi par le pape François. Dans le motu proprio Apostolica Sollicitudo, le pape Paul VI affirmait déjà « L'organisme synodal pourra être perfectionné par la suite ». Cette éventualité était évoquée également par le pape Jean-Paul II, discours de clôture de la 6e Assemblée Générale Ordinaire le 29 octobre 1983. Pour le pape François, il est clair que le temps est venu d'associer les laïcs au processus synodal. Jusqu'ici, les lineamenta, c'est-à-dire les textes préparant l'Assemblée Générale d'un synode, étaient rédigés par des experts et envoyés seulement aux évêques concernés par l'Assemblée du synode. Lorsqu'en 2014, le pape a convoqué l'Assemblée extraordinaire sur la famille, il a souhaité commencer par une phase d'écoute du peuple de Dieu et a, pour cela, encouragé la vaste diffusion d'un questionnaire. Cette intuition est reprise pour l'organisation de la 16e Assemblée ordinaire du synode qui vient de débuter. La conviction du pape repose sur ce vieux principe. Ce qui concerne tout le monde doit être discuté par tous. Et pour vivre cette écoute du peuple de Dieu, il faut le rejoindre là où il vit concrètement, d'où une première phase d'écoute des églises particulières. Jusqu'ici, les assemblées répondaient aux soucis des papes de vivre la collégialité, de nourrir la communion du pape avec les évêques du monde. Avec le pape François, il s'agit de passer de la collégialité à la synodalité fondée sur une écoute plus large et dans laquelle chacun doit apprendre de l'autre, peuple de Dieu, collège épiscopal, évêque de Rome. Voici le calendrier de la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques sur le thème « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». 1. Les 9 et 10 octobre 2021, coup d'envoi d'un itinéraire de 3 ans, divisé en 3 phases, diocésaine, continentale, universelle. 2. Le 17 octobre, lancement de l'itinéraire dans les diocèses, grande consultation du peuple de Dieu. Un référent est nommé dans chaque diocèse, les contributions des diocèses sont envoyées à la conférence des évêques de France. Chacun de nous est invité à répondre au questionnaire sur le site du diocèse. 3. La synthèse nationale est invitée au secrétariat du synode. 4. Rédaction du premier Instrumentum Laboris, document de travail élaboré à la suite des consultations et destiné à préparer les thèmes retenus pour les synodes. 5. De septembre 2022 à mars 2023. Cet outil nourrit la réflexion de la phase continentale. 6. Rédaction à Rome d'un deuxième Instrumentum Laboris, riche des différents apports et publié en juin 2023. 7. Octobre 2023, Assemblée des évêques à Rome. La démarche synodale va devenir un processus. On peut dire que jusqu'ici, l'essentiel du synode consistait en l'événement d'une assemblée. Aujourd'hui, il devient un processus qui se décline en 3 phases. La phase préparatoire, la phase de célébration, la phase de réalisation. Mais ne nous méprenons pas sur les mots. La phase dite préparatoire n'est pas apéritive ou secondaire. Elle est une étape à part entière du processus. La consultation du peuple de Dieu est même l'acte fondateur du synode. Sans elle, il n'y aurait pas de processus synodal, car que vaudrait un discernement des pasteurs qui ne reposerait pas sur cette écoute? Quelques fondements théologiques de l'esprit synodal. La redécouverte de la synodalité dans l'Église catholique n'est pas une concession faite à l'esprit du temps. Elle n'est pas à lire comme une revanche de l'Église d'en bas, qui verrait enfin satisfaite sa revendication de participation au gouvernement. Le concept de synodalité ne doit surtout pas se nourrir d'une idéologie d'opposition entre peuple de Dieu et hiérarchie. Il est donc important de nous appuyer sur de solides fondations ecclésiologiques. la vocation baptismale. La pierre de la fondation de la synodalité, c'est le sacrement du baptême. En effet, il ne permet pas seulement à celui qui le reçoit de vivre dans le Christ, mais il le greffe comme membre au corps du Christ qu'est l'Église. Ainsi, Mgr Grèche, secrétaire général du Synode des évêques, rappelle que le sacrement source dépose en chaque chrétien non seulement une graine de communion, mais aussi une graine de participation. Tout baptisé, revêtu d'une égale dignité, est appelé à devenir disciple missionnaire. Habité par l'Esprit Saint, il reçoit des charismes qu'il devra mettre au service de l'Église. Le sensus fidei. Le Concile Vatican II célèbre en des termes très forts le sens de la foi du peuple chrétien. La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans la foi. Ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste par le sensus fidei, le sens surnaturel de la foi. Elle ne peut se tromper quand, des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Lumen Gentium 12. Déjà dans la première épître de Jean, on pouvait lire « Baptisé, c'est du Seigneur que vous tenez l'onction et vous avez toutes les connaissances. Cette onction vous enseigne toute chose, elle qui est vérité et non pas mensonge. » Le pape François reprend cela dans sa première exhortation apostolique. Dieu dote la totalité des fidèles d'un instinct de la foi qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. Evangelii Gaudium 119. Il ira même jusqu'à parler du flair que possède le troupeau pour discerner les nouvelles routes que le Seigneur ouvre à l'Église. Discours du 50e anniversaire de l'institution du Synode des évêques, 17 octobre 2015. Le ministère hiérarchique. Vous l'avez compris, tout commence donc par l'écoute du peuple de Dieu, mais ensuite interviennent les pasteurs. Le Concile Vatican II, qui a dénoncé la conception d'une église pyramidale, nous rappelle en même temps que les évêques sont le principe et le fondement de l'unité de l'Église, Lumen Gentium 23. Lors d'une assemblée générale des évêques, c'est bien à eux qu'est confié l'ultime discernement. Cela relève de leur ministère propre. Le pape, serviteur des serviteurs. Dès le début de sa vie publique, Jésus a appelé des apôtres. Il a constitué un collège apostolique au sein duquel il a donné à Pierre une place toute particulière, le désignant comme « rocher » en Matthieu 16, lui confiant la mission de confirmer ses frères dans la foi en Luc 22. Le pape, successeur de Pierre, est, comme le nomme le Concile Vatican I, pasteur et docteur de tous les chrétiens. Mais il demeure au sein de l'Église, baptisé parmi les baptisés, et au sein du collège épiscopal, évêque parmi les évêques. S'il est appelé à guider l'Église de Rome, celle qui, selon les mots de saint Ignace d'Antioche, préside dans l'amour toutes les églises, il n'en demeure pas moins le serviteur des serviteurs, disciple de ce Jésus qui, la veille de mourir, lava les pieds de ses apôtres. Les évêques sont unis à l'évêque de Rome par le lien de la communion épiscopale, cum petro, avec Pierre, et en même temps lui sont soumis, sub petro, au-dessous de Pierre, le reconnaissant comme chef du collège. Un chemin synodal est un chemin spirituel. Au rendez-vous de l'Esprit-Saint. Il n'y a pas de synodalité sans spiritualité, puisque synoder, c'est marcher ensemble avec le Christ et dans l'écoute de l'Esprit-Saint. Le 30 avril 2021, le pape François s'exprimait ainsi devant une délégation de l'Action catholique italienne. Il ne peut y avoir de synodalité sans l'Esprit il n'y a pas d'esprit sans prière. Voilà pourquoi, à l'ouverture de chacune des assemblées synodales, on amène en procession le livre de la parole de Dieu pour qu'il préside les assemblées. Adopter l'esprit du pèlerin. Entrer dans la synodalité, c'est accepter de se mettre en route, de vivre des déplacements, de sortir de ses conforts, de ses habitudes, de ses façons de penser. Accepter de se laisser conduire sur des chemins nouveaux. La route n'est pas forcément balisée d'avance. Elle exige de ceux qui s'y engagent qu'ils soient ouverts à l'inattendu de Dieu, qui, à travers l'écoute des autres, viendra les toucher, les bousculer. S'engager dans l'aventure communautaire. Sur le chemin, l'ouverture à la rencontre fait la richesse de l'expérience du pèlerin. Une assemblée synodale se doit de rassembler des diversités de générations, d'états de vie, de milieux sociaux, de sensibilités spirituelles. Sœur Nathalie Bécard, secrétaire du synode des évêques, a l'audace de la comparer à un grand ballet où les uns et les autres apprennent à se mouvoir ensemble à l'écoute de la musique de l'esprit. Une expérience de conversion. Ceux qui ont participé à l'assemblée du synode des évêques peuvent en témoigner, on ne sort pas indemne d'un synode. Vécu dans une attitude profonde d'écoute de l'esprit, il est vraiment un chemin de conversion personnelle et communautaire. Synodalité, conversion et réforme de l'Église sont ainsi intrinsèquement liées. Quelques attitudes spirituelles à cultiver. La foi et la confiance en l'Esprit Saint. Prendre au sérieux ce verset de l'Évangile. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, en Matthieu 18. Entrer dans l'humilité de l'écoute. Le Seigneur peut aussi parler par mes frères. Oser s'exprimer. Oser croire que le Seigneur veut aussi parler par moi. Au moment de l'ouverture du synode sur la famille, le pape François s'adressait ainsi aux intervenants. Vivre la synodalité, c'est dire tout ce que, dans le Seigneur, on se sent en devoir de dire, sans peur de froisser, sans timidité. Cultiver un climat d'intériorité, favorisant l'attention au mouvement de l'esprit, en soi et dans le groupe. En conclusion, on peut donc dire que la réactivation de l'esprit synodal n'est pas un simple effet de mode ou une fantaisie du pape François. Car c'est en pratiquant la synodalité que l'Église répond éminemment à sa vocation la plus profonde. Devenir toujours plus une communion, à l'image de celle qui se vit au sein même de la Trinité. Vivre la mission, donner le témoignage qu'aux yeux de Dieu, tout homme possède une égale dignité et est appelé à devenir artisan de son royaume. On comprend dès lors cette intuition du pape François. La synodalité, c'est ce qu'attend le Seigneur de l'Église du troisième millénaire. Discours à l'occasion du 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques, 17 octobre 2015. Thank you.